combat, ouais.
Toi aussi?
Pas longtemps, ouais.
Allez,
je
vous laisse.
Allez.
Mais je vais pas écouter.
Et comme ça, tu as le temps de réfléchir.
Je me mets dans un coin.
Lui, à mon avis, il a déjà son idée. C'est moi qui n'ai pas l'idée. Moi, je ne sais pas, je sais pas vers quoi me...
Je n'ai pas encore. Hein.
Non?
Ah, tu vois?
Je pensais que tu l'avais. Hein.
Bah, tu peux prendre 5 minutes.
Regarde. Ouais. Je me mets là, je n'entends pas. Hein.
Oui, c'est ça.
À l'oreille des montagnes, carnet radiophonique des rencontres Pyrénées vivantes à Germes, chez Lily. Chaque artiste est invité dans l'écrin d'un salon à venir partager un document d'archives, de collectage, de littérature orale ou écrite, afin de l'explorer d'abord à partir du son lui-même, puis au travers du toucher, de la vue, de l'odorat et du goût. Bienvenue dans un moment sensoriel et intimiste de rencontre avec des artistes singuliers. Cinquième épisode avec Maddy Oyenard.
Il y a un gars que je n'ai pas connu. La plupart d'ailleurs, c'est pas que un, c'est plein, mais qui peut-être me touche un peu davantage sans que je le connaisse en fait. Après voilà, j'ai juste su que c'était un gars qui était veuf et qui a élevé ses enfants tout seul et tout ça, donc il a une vie un peu difficile, mais je peux parler aussi de. Voilà, de rencontres plus générales, parce que j'ai rencontré tous les gens de près ou de loin qui ont été dans ce domaine-là, donc...
Qu'est-ce qui t'a fait chanter au début?
C'est une très bonne question, parce qu'en fait, jamais je n'avais pas imaginé que je chanterais un jour devant des gens. Alors, j'aimais écouter les gens chanter. Quand j'étais jeune, je travaillais pas mal dans les bars, pour les fêtes, tout ça. Et évidemment, j'entendais les gens chanter. Et mon oreille, je pense, était attirée par ça. Mais voilà, un jour, j'avais un ami, là. On avait des familles, on se retrouvait régulièrement. Et dans ces concours de chant, là, on nous a inscrits. Mais on nous a inscrits sans que... On n'y a pas réfléchi. Et même après l'inscription, alors ils nous ont bien dit qu'on était inscrits, mais nous, on a rien fait jusqu'à aller au concours. Et au concours, on est allé de manière totalement empirique. Et puis, là, ça a porté des fruits. Du coup, on nous a invités à aller chanter à droite, à gauche. Et... Il y avait des petites choses qui posaient des questions. Donc, je l'avais appris en 2-3 jours, ce chant. Et puis, comme ça, sans le travailler, on y est allé, quoi. Et au concours, le jury nous a dit « Votre chant, il n'est pas classable avec les autres. » Le jury nous a dit ça. Et donc, le gars là avec qui je chantais était furieux. Vraiment furieux. Parce que lui, pour lui... Chanter, c'est ce dont parle Bignat, c'est chanter, c'est vivre, en fait. Et ça c'était tombé comme un couperet. Le fait qu'on lui dise que ce soit pas classable. Moi, ça m'a pas beaucoup choquée, parce que en fait, j'avais bien compris que ce qui était intéressant dans ces concours, c'était de faire des choses nouvelles. Et c'était ça qui était récompensé. Et nous, on avait choisi un chant trad. A cappella, sans... Voilà. Du coup, je n'étais pas surprise. Et après, tout ça, ça a donné de la matière à réflexion. Qu'est-ce que c'est que le trad? Qu'est-ce que c'est que le chant actuel? Plein de questionnements comme ça, que jusque-là, je n'avais jamais eu. Et en fait, là, pendant juste 2-3 mois, on a chanté ensemble. Et puis ça s'est arrêté, parce que lui, il a sa ferme, et il était occupé à sa ferme, et il n'était pas venu. Et un jour, il n'est pas venu, et moi, je me suis... Les gens qui étaient là, qui chantaient, disaient « Ah oui, mais Maddy, elle est là !» Et il y en a un, il est venu me chercher, il m'a prise comme ça par les poils, et il m'a amené devant. Et là, j'ai chanté un chant toute seule. Et avec une peur monumentale. Comme c'était des chanteurs qui étaient là autour, ils ont dit « Ah oui, mais tu peux chanter toute seule. » Et puis, j'ai mis du temps à me convaincre que c'était possible. Voilà. Et petit à petit, j'ai fait des petites choses de Sidra, mais c'est beaucoup de la parcimonie comme ça. Hein. Et même aujourd'hui, je fais 2 concerts dans l'année, ça reste quelque chose d'anecdotique, quoi.
Et ce chant, alors, du concours, il venait d'où ?
Eh bien, lui, Baptiste, il s'appelle, il dit qu'il avait appris de sa grand-mère. Et c'est un chant qu'on ne trouve pas dans les cahiers. Et alors ça, je l'ai appris avec lui, c'est cette idée qu'on chante, mais on ne chante pas ce que tout le monde chante. On chante vraiment des choses qu'on a en nous. Il y a quelque chose de... Et dans ces concours-là, l'idée, c'est de sortir des choses que personne n'a entendues. Ça, je trouve ça intéressant quand même.
Et pour toi, ce chant, si on commence donc l'exercice des 5 sens, on peut commencer par l'ouïe. Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi, dans ton oreille, dans la musique, la musicalité, la langue, etc. Qu'est-ce que ça t'a fait, ce chant ?
Déjà, c'était... En premier plan, c'était le fait d'avoir fait le duo. Je le remercierai jamais assez. Pour moi, dans ma vie, c'était la première fois que quelqu'un me faisait confiance et me laissait la part égale pour m'exprimer. M'exprimer, tout simplement. Et vraiment, c'était une découverte pour moi. C'est quelque chose que je ne connaissais pas jusque-là. Et j'avais 40 ans. Et franchement, ça avait été une surprise. Et à la suite de ça, le public, enfin, les gens aussi font des retours tout le temps. Et du coup, on se voit différemment aussi. De par juste, comme ça, cette mise... en situation, en fait. Et après, au niveau de la musicalité de Louis, le gars, là, il chante comme on chante dans les montagnes, comme on chantait, plutôt. Il faut le mettre à l'imparfait, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne chante comme ça. Il chante très, très, très haut, et avec cette force qui donne vraiment. C'est comme si le chant nous traverse, en fait. C'est pas nous qui chantons, mais c'est comme si le chant nous traversait. C'était hyper je sais pas bien trouver les mots, mais le peu de temps qu'on a chanté ensemble là, c'était waouh, c'était quelque chose, hein. Moi ça me libérait de quelque chose. Je me sentais beaucoup plus légère après avoir chanté.
Et donc, si on enchaîne avec le toucher, justement.
Alors, avec le toucher, alors j'ai plus de mal à le mettre en lien avec le toucher, parce que cette idée que le chant passe à travers nous et que nous, on lâche tout, là. Pendant ce moment du chant, là, on s'oublie, soi, en fait. On vit le chant, et après, voilà, il nous a traversé et on est libéré de quelque chose, en tout cas. Je ne sais pas dire de quoi, mais... Et donc, le toucher, c'est juste passer de quelque chose où on pèse de quelque chose, et puis, on se lâche de quelque chose.
Et la vue, le regard aussi.
Alors la vue, moi toujours au départ, au début que j'ai commencé à chanter tout le temps, tous les chants, et c'était systématique, des paysages se dessinaient. Et je chantais avec les paysages, toujours. Aujourd'hui, moins, parce que alors j'ai peur de perdre mes paroles, alors je suis toujours en train de réfléchir, de bien me souvenir des paroles, des choses comme ça, qui font que j'ai moins cette... Mais là, tout à l'heure, quand Beignat a chanté, alors, franchement, je suis partie dans le paysage. Et j'y étais. J'avais tout oublié, là.
Et l'odorat et le goût?
Alors, l'odorat, j'ai davantage du mal à situer. Comment il intervient là, je ne sais pas le dire, ça. Et le goût, au fond, c'est... Je ne sais pas trop l'exprimer, ça. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose que... Une question subsidiaire pour me...
Il y en a d'autres après, ouais. Mais sur l'odorat et le goût, non, mais c'est vrai, je pense à ce concours de chant ou à cette première fois où tu as chanté seule. Et ça se passait où? Ça se passait comment? Est-ce qu'il n'y a pas une mémoire aussi de ce moment-là? Un goût ou une odeur particulière?
Moi, je dirais le souvenir d'odorat, c'est plus... Il y a eu des périodes où je chantais seule dans les forêts, en fait, mais voilà. Alors, le substrat qu'il y a dans les feuilles, voilà. Des choses comme ça, oui, mais... par exemple, on chante beaucoup dans les fêtes, à table et tout ça, les gens... Alors là, il y a des nourritures, des choses... Mais non, ça me parle pas, en fait.
Pour revenir à ce chant de ton collègue, quel écho ce chant a encore aujourd'hui, selon toi?
Bon, pour moi, c'est ce phénomène que de... Il y a beaucoup de chants dans nos répertoires, là, de la soule, qui sont chantés comme ça, de manière très légère, mais néanmoins, c'était des drames. Pour moi, ça, c'est des drames, et c'est toujours les hommes qui écrivaient ces textes, et c'est un peu tourné à la dérision. Elle a son gros ventre, donc... Et souvent, les femmes étaient rejetées hein, par leur propre famille. Et souvent, c'est parce qu'elles avaient été abusées, c'est pas parce qu'elles en avaient voulu. Hein. Enfin, on est toujours avec des sujets un peu de cette... Et voilà, ça c'était... Aujourd'hui, je discute de ça avec des jeunes filles qui chantent ces textes. Par exemple, il y a une ferme là où la dame... Il y avait le curé qui venait la voir. Alors, c'est une satire au curé. Néanmoins, dans la satire au curé, on parle de cette jeune dame qui était enceinte d'un curé. Et elle chante ça en rigolant. Et moi, je ne peux pas chanter des chants comme ça. Je ne peux pas, parce que c'est... Quelque part, on cautionne quelque chose si on chante des choses comme ça. Et moi, je ne peux pas. Et alors, elle me regarde avec des gros yeux. « Oui, mais c'est pour rigoler », elle me dit. « Franchement, vous trouvez ça rigolo ?» Je leur dis. Et en fait, non, moi, j'ai choisi plus des choses... bon, voilà. Rien de très folichon, on va dire, mais... Ouais, les textes, c'est important, très important. D'autant plus qu'on les fait revivre à chaque fois. Donc, à chaque fois qu'on les chante, on revient sur ces choses-là. Et bon.
Est-ce que tu serais d'accord pour déposer une offrande musicale à ce micro? Ça peut être cette chanson dont tu as parlé, ça peut être une autre.
Alors, je vais en faire une autre parce que celle-là, on l'a faite là, donc ça peut être... Alors l'autre, c'est un chant, si j'ai bien compris, on chante ça dans toute l'Europe. C'est le chant d'une dame qui se lève et qui est jeune fille et qui se marie et qui le soir est veuve. Et en fait, le chant dit, elle dit à son mari, elle dit « Regrettes-tu de m'avoir épousée ?» ou « Enfin, relève ta tête. » Et en fait, non, il est mort. Donc, le texte dit qu'elle avait un ami qu'elle a caché, sauf de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est au courant, on va dire. Et il a envoyé un bouquet de roses, dont certaines étaient empoisonnées. Donc on comprend qu'il a été empoisonné. Et elle dit qu'elle garde son homme la nuit entre ses bras et le jour sur la pierre froide pendant 7 ans. Donc le texte dit ça. Alors peut-être c'était 7 mois, je ne sais pas. C'est bon, toujours avec ce chiffre 7. Et ce texte-là, il semble que il existe en plein de versions à travers l'Europe. Et alors, chez nous, il y a quelqu'un qui s'est penché sur cette histoire et qui a trouvé une maison où ça s'est passé. C'est-à-dire que ce nom-là est répertorié dans cette maison. La dame qui s'est mariée, qui était veuve le soir même, c'est quelque chose qu'on peut vérifier là, dans des archives historiques. Mais dans le même temps, on entend que ça existe dans toute l'Europe. Donc, quelle est la part du conte et quelle est la part de l'histoire je sais pas. Mais peut-être quelqu'un a juste ajusté des noms sur un conte qui existait déjà et voilà, on ne sait pas en fait. Mais c'est un beau chant. Goy si an goy si j'ai qui n'un du sud. Ech poujanin san goysian. Baieta ere, setaz bestitu, ekia gertu zenian. Eche kande saban nun duzu, Egu erdi erditan Baieta ere Alhargun txagazte Ekia sartu zenian Mouz dirigarai ene jauna altxizada zuburia. Alazaizu ote dolutu Enekin espujazia. Enitzita zutez dolutu, Zuekin espujazia. Ez eta ere dolutuen, Bizi nizan olurria. Nik banizun maite txobat, mundu ororen isilik. Mundu ororen Ishilik eta jinko jaunari ageririk. Buke bat igori ditazut, liri araro jez eginik. Liliar arroz eginik eta erdia puzuatirik. Zazpi urtez etxeki Gizona hilik egunas blur hotzian eta gaiaz bibesuen artian. Zitru hudez ukusten izur hastian egun batian. Hastian egun batian eta ostia legoizia. Voilà, c'est une mélodie qui est... Il y a de la profondeur, en fait. Moi, c'est le genre de chant que j'aime. En fait. Alors, d'autres vous diront, « Ah, c'est que des chants tristes. Oh, » Ok, c'est des chants tristes, mais c'est des chants profonds. Mais aujourd'hui, je me rends compte que il y a des jeunes qui sont sensibles à ces choses-là. Demain, ma propre génération, beaucoup moins. Mais c'était l'effet de l'après-guerre et puis l'évolution qu'il y a eu après. Tout ça entre en compte en fait. En tout cas, voilà, les sensibilités de chacun, après, c'est bien aussi qu'il y ait des gens qui aiment les chants gays, hein. C'est heureusement qu'on en a, parce que ça serait triste, sinon, de n'avoir que des choses, bien sûr. Bien sûr. Et j'adore chanter au bar avec les gens qui chantent à tue-tête, il n'y a pas de souci. Hein.
D'ailleurs, je crois qu'on nous attend.
Ah, ben voilà.
C'est le moment.
Voilà, ça c'est le bon...
Merci.
De rien.
À l'oreille des montagnes, carnet radiophonique des rencontres Pyrénées vivantes à Germes, chez Lily.
T'as amené un livre. Pas amené un archive sonore, mais un texte, c'est ça?
Ouais, je vais le choisir. Hein. Ils m'appellent tous.
Sixième épisode avec Beniat Achiari.
C'est quoi ce livre que tu as amené?
C'est ça.
La lenteur des bœufs, mémoire de la neige.
Oui.
Tu hésites?
Oui, parce que je voudrais en lire au moins deux ou trois. Je vais? Je n'ai souvenir que de la saveur du doute, telle une coulée de fraises sur les molles écailles de ma bouche. J'ai oublié l'endroit où les neiges les plus bleues réussissent à résister à leur abandon. J'ai oublié depuis longtemps la docile lenteur des moulins. Bien avant l'heure des vagabonds à travers les bosquets gelés, j'ai marché longuement vers la mansuétude. J'ai cherché les prairies où paissent les bœufs les plus vieux. Sur mon incertitude, j'ai mis des roches plus jaunes que le silence, des roches plus étalées que du coton. Et il ne restait rien d'autre que le doute flottant doucement, comme crème fondue. Je ne sais si, après la mort, quelqu'un viendra m'endormir avec les légendes apprises dans de lointains pays. Je ne sais si l'averse du néant éteindra les fourneaux de la mendicité. Mais il est sûr que des mots absolus, plus absolus que récipients d'huile renversée, m'attendront de l'autre côté de l'oubli. Et entre ces voix frappées sur des moules d'argile et de certitude, ma voix résonnera étrange comme le thym qui a pris racine sur les côtes de l'amour. Ma voix sera comme une parenthèse de doute. Quand tu reviendras à la maison, je te dirai comment résonne le soleil entre les frênes et la saveur des pains les plus anciens. Je t'amènerai en silence jusqu'à un champ de bruyère. Je te montrerai la grotte gelée du désir où se cachent des accalmies vertes et des feux dispersés. Et tu seras sous mon ventre comme du sang mordu. Alors, j'égrainerai le silence en cailloux bleus. Vieille ma voix, et tu le sais, comme une cloche suspendue dans le vide. Mais elle ne trouvera pas de mur dépeuplé où cacher ses plus profonds échos. Il n'y aura pas de vigne acide semée dans son effarement. Parce que, pour lors, la mansuétude aura germé comme du vinaigre versé sur le sommeil, et il n'y aura personne pour réclamer les sillons désolés de ton absence. Lorsque tu reviendras à la maison, je te dirai comment les orties bruissent dans le sang. Les bardes arrivaient avec l'été. Par les verts chemins, ils erraient de village en village. Et toujours, il y avait un vieillard qui disait « Ils viennent du pays de la neige, du pays des forêts et des lacs gelés. » Et on leur offrait de la crème et des érelles mûres. Mais les bardes ne s'arrêtaient jamais plus d'un jour dans chaque village. Le matin, ils poursuivaient leur route. Nous, les enfants, nous les appelions en pleurant, inutilement.
Alors pourquoi tu as choisi ?
Et j'ai choisi parce que ces poèmes parlent de nous. Ils parlent de la confrontation à la mort et ils parlent aussi de la Renaissance. Ils ont été écrits par Julio Llamazares, qui, venant du León, a posé sa main sur le cœur de l'Aragon et sentant le drame de ces montagnes, il l'a écrit. Des romans inoubliables comme La pluie jaune, mais aussi ses poèmes. Et comme Lorca, il nous amène au fond du drame, mais il ne nous y laisse pas. Dans la beauté de son écriture, il nous donne aussi ce sentiment de dire au fond de nous-mêmes, plus jamais ça. Et de renaître. Voilà, pourquoi j'aime ces poèmes.
Alors, je vais te lancer avec les mêmes pistes que pour les autres. C'est la piste des cinq sens. Donc, la première piste, c'est l'ouïe.
Ouais.
Donc, à partir de ce que tu viens de partager avec nous, qu'est-ce que ça peut susciter pour toi du point de vue de l'ouïe, du point de vue de la musique ou de la langue, ou de la musique de la langue, ou de tout simplement du son?
Avant de chanter, j'aime, quand je peux, et je le fais de temps en temps, pratiquer le souffle et le regard dans un endroit choisi, pour son sens ou pour sa beauté, ou alors je le baptise comme ça. Et je commence à pratiquer par le souffle et par le regard pour avoir une petite chance d'être visité par le chant. Ça n'arrive pas toujours. Mais quand ça arrive, c'est extraordinaire. Et là est l'endroit où on peut renaître. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il y a ce présent incroyable qui s'offre à nous. Et c'est là que l'ouïe est aussi fondamentale que le regard. En fait, quand je réussis à me mettre dans cet état, je me mets à entendre tout le monde. Si je suis dehors à la montagne, ce sont les éléments qui me parlent à l'oreille, les chants des oiseaux, peut-être un berger ou quelqu'un qui passe. C'est mon cœur que je sens battre aussi, et donc je l'entends. Tout le monde, c'est le son du monde qui vient avec tout aussi, tous les autres sens. Mais l'ouïe fine, l'ouïe poétique reçue, pas cherchée, qui m'envahit, est un bonheur. Et dans cette attention, et dans ce plaisir, ce cadeau qu'ils me font aussi, eh bien, je commence à sourire.
Donc, le regard, peut-être, ce n'est pas la peine d'y revenir.
Oui, oui, le regard. Le regard, il est fondamental. Avant que je puisse lire quelques vers, quelques chose écrit au fondamental de François Cheng, quand je me disais à moi et aussi à ceux qui travaillaient avec moi parfois, en confiance, je disais, voyons, il faut voir quelque chose, puis ensuite ne plus la voir, mais la revoir dedans et la revoir après. Et dans ce revu au chiffre 3, essayer que ce que je regarde vienne vers moi. Et ça, ajouté au cœur aussi, donc ça donne un non-jugement plein d'amour dans ce que je peux regarder. Et ça, c'est une chance quand ça arrive. Voilà, je ne suis pas toujours comme ça, mais quand ça arrive, ça me donne une chance d'être... de devenir fontaine.
Le toucher.
Le toucher, pour moi, c'est l'abandon de la pulsion de violence pour la tendresse. Parce que j'ai plutôt un sang très bouillant. Et par le jeu, le toucher de la main par la pelote quand on était petit, dans tous les coins, ou même c'était interdit de jouer. On inventait tous les petits recoins à la pelote et le jeu apparaissait. Ou dans les pierres qu'on soulève pour voir s'il y a des écrevisses, maintenant il n'y en a plus beaucoup. Ou dans la caresse qu'on recevait. Le toucher et là aussi une porte d'entrée vers le monde intime. La lutte libre m'a appris à ne pas cogner, à ne pas désespérer, à rire dans l'effort. La pelote m'a envoyé le sens des spirales, des trajectoires, du jeu dans les espaces. Quand la balle gigote partout, les murs où on frappe. Quand j'écris avec ma main, ça m'arrive un peu, parfois. Maintenant, à peine, et je ne suis pas sûr de pouvoir le faire bien. Mais j'avoue que ça me fait énormément de bien. Quand j'écris, je veux dire des choses qui me traversent. Pas quand j'écris aux impôts. Encore que, bon, passons. Mais quand j'écris une lettre ou quand j'écris des choses comme ça. Et puis, comme j'ai beaucoup aussi travaillé avec mes mains, le sens du toucher, les gestes de l'effort, ou quand je coupe du pain, comme tout à l'heure, en bas, des petits bouts de ceci ou de cela, le toucher où il n'y a plus de violence, où il n'y a que de la relation, que des choses qui fonctionnent comme ça, m'intéresse en tout cas. Il m'intéresse parce que c'est le médium souvent entre les choses, entre moi, entre ce que le sens qui me donne, qui m'arrive dans un espace, qu'est-ce que j'y fais, quoi, et aussi les choses qui sont autour de moi. Et ça me plaît. On est au carrefour des mondes. Et j'aime le toucher, oui. Mais j'aime beaucoup le toucher qui construit, qui pose. Et j'aime beaucoup être caressé.
Et l'odorat.
L'odorat. Ah, mais l'odorat, c'est la subtilité des odeurs et leur monde incroyable de sensations. L'odorat, ça peut être le drame instantané aussi, ou allié à la découverte d'un monde comme la première bouffée d'air que j'ai respirée en atterrissant à Bombay. Ça peut être tout à la fois. Et je regarde quand je pars si j'ai bien fermé le gaz. J'aime pas trop ces odeurs qui peuvent faire détruire un monde, comme qui rigole avec une étincelle, ou les odeurs de ma voiture. Je sens que dans les odeurs, il y a là aussi, comme dans la vie, tout le panorama du bonheur et du malheur. Et je pense que outre le plaisir qu'il me donne, l'odorat, il me guide aussi, il m'appelle dans le monde que je traverse. Et il me rappelle des fois à mes propres responsabilités, ou à celles qu'on me fait subir, ou autre. C'est une des vigies de l'être aussi, l'odorat, pour moi. Donc, ça peut être ça, puis ça peut être aussi l'intimité absolue, parce que les odeurs sont très subtiles. Et quand on se donne le droit, comme on dit dans le langage courant, ou quand on se permet dans la paix d'un moment de sentir une fleur, quelque chose, c'est le bonheur, quoi. Ou quand une odeur surprend, si une bonne odeur surprend. Alors, voilà, c'est ça pour moi, l'odorat.
Et le goût ?
Ah, le goût. Le goût, c'est déjà dans la bouche. Le goût. Donc, c'est un sacré sens à un niveau déjà intime de la personne, comme l'odeur aussi. Enfin, tout est intimité des sens, finalement. Mais quand on a quelque chose dans la bouche, le goût de quelque chose au sens très concret de ce qu'on mange, par exemple, ça peut être aussi tout ce que je dis pour l'odorat, à la fois un immense bonheur, une simplicité totale, le partage, souvent, parce que j'apprends petit à petit, c'est pas toujours facile, mais dans la solitude, de partager ce que je ressens aussi. Et donc le goût, et ça fait réfléchir aussi. Voilà.
Alors pour finir, j'ai deux choses à te demander. La première, c'est... Bon, tu as choisi ces textes-là.
Mmh, oui.
Et quel écho peuvent-ils avoir aujourd'hui et aussi pour demain, ces textes?
Ah, alors sans aucun doute, ce sont des textes absolument fondamentaux qui nous font tellement mettre à l'endroit fondamental entre le passé et le présent, nos responsabilités en tant qu'être humain, en tant que... que pouvant marcher dans un champ, le cœur tranquille, par exemple, ou de croiser un regard et d'être heureux. C'est tellement... il est vraiment... Je le mets en parallèle beaucoup à Lorca, surtout au Lorca de New York, 1929-1930, par la démarche d'absolue lucidité qu'il a aussi. Donc je le mets comme au niveau d'un texte très important. J'ai eu du mal à lire certains poèmes, parce qu'ils vont très loin, quoi. Mais j'arrive maintenant à les lire aussi. Comme je disais tout à l'heure, il ne te laisse pas désarmé dans la situation que tu traverses. En tout cas, je pense que comme Lorca, par exemple, qu'il donne aussi une lucidité qui peut te faire agir dans le bon sens. Ça reste de la poésie, c'est-à-dire, c'est pas un traité politique ou sociopolitique sur le village qui se vide et Saragossa qui n'en finit pas de grandir, par exemple. Mais c'est de la poésie, donc ça te va jusqu'aux cellules directes. Et donc là, c'est une chance, même si c'est parfois difficile de les lire, même si on les oublie, comme moi, je ne suis pas un saint, hein, je les oublie aussi, des fois. Donc, mais qui peut te donner la capacité de, ouais, d'avoir une bonne réaction. Au moins, j'y pense, quoi. Je sais qu'il y en a, heureusement, beaucoup de meilleurs que moi dans l'action, hein. Mais bon, au moins, ce sont des toutes petites choses mais, que je peux faire, mais... Petit à petit, on avance. Enfin, pour moi, je ne suis pas par bon. Hein. Voyons si on sera utile.
Ma dernière chose que j'ai envie de te demander, c'est est-ce que tu voudrais bien faire une offrande musicale ?
Voilà. Voilà, voilà.
Tu veux voir quelque chose ?
Non, ça va bien. Il y a tout qui va bien. Moi, je ris quand je suis content.
Merci beaucoup.
De rien. Merci à toi.
À l'oreille des montagnes, carnet radiophonique des rencontres Pyrénées Vivantes à Germes chez Lily.